Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Cop Noir. Je suis vraiment ravi de vous retrouver pour cette nouvelle saison qui s'annonce avec plein de choses à découvrir, des compétitions européennes pour Lille et pour Lens, des échéances donc qui ont d'ores et déjà débuté. Bref, on s'attend à une saison magnifique pour nos deux clubs et avec nos supporters encore cette saison qui nous ont rejoints en plateau. Mais d'abord, les titres, le sommaire ce soir et le LOSC qui repart donc de Nice avec le nul 1 partout obtenu en toute fin de rencontre. Un but de Diakité qui sauve les Lillois qui ont montré parfois les mêmes lacunes que l'an passé. Il y a un départ manqué pour le Racing Club de Lens qui s'est incliné 3-2 à Brest. Pourtant, rapidement devant, les hommes de Francaise ont sombré en deuxième période, concédant notamment deux pénaltys et un carton rouge. Et enfin, l'arbitrage qui a eu des nouvelles consignes qu'on a vu ce week-end en Ligue 1. Plus de temps additionnel, moins de coups de sifflet. Que pensent nos supporters en plateau de ces nouveautés ? Ce soir, autour de la table, eh bien, on retrouve par exemple Antoine Galinier. Bonsoir, supporter du Racing Club de Lens et qui pourra nous éclairer grâce à ton rôle aussi d'arbitre de Ligue. À tes côtés, Denis Couvelard, supporter du Racing Club de Lens, et de l'autre côté de la table, Raphaël Marquand du Petit Lillois. Bonsoir.
Bonsoir.
Et Maxime Sidra.
Bonsoir.
Bonsoir. Voilà, la table est présentée. Vous pouvez aussi vous participer à cette émission grâce aux réseaux sociaux et au hashtag CopNord sur Twitter, sur X maintenant, appelons X. On se retrouve donc tout de suite sur les réseaux sociaux. Et on commence d'abord cette émission avec le résumé du match entre Nice et Lille, résumé signé Emma Kant.
Pour sa première rencontre de la saison, le LOSC a eu le droit à un déplacement dans le sud de la France. À l'Allianz Riviera, les Lillois ont certes dominé l'OGC Nice, mais ne rentrent pas dans le Nord avec les 3 points. La faute à un but encaissé en première période, inscrit par Gaëtan Laborde. Avec 12 tirs tentés par ses joueurs, Paulo Fonseca a de quoi être frustré, car les nordistes ont dominé de bout en bout cette partie. Des efforts qui ont fini par payer à la 94e minute de jeu et l'égalisation de Bafodé Diakité. Pour leur prochain match, lors de la deuxième journée de Ligue 1, les Dogs recevront Nantes à Pierre-Mauroy, dimanche 20 août à 13h.
Coup d'œil rapide donc aux statistiques de cette rencontre des Lillois qui ont eu le ballon 60% du temps, plus de passes pour les Dogs, tout comme on voit ces 21 centres tentés dont seuls moins d'un quart ont trouvé preneur. Et puis on peut aussi remarquer 12 tirs dont 5 cadrés pour les nordistes. Petite nouveauté cette année dans Cop Nord, fini les tops et les flops, on va plutôt chercher à savoir qui est pour vous le joueur qui a été le plus important, positivement comme négativement dans cette rencontre. Forcément je me tourne côté Lillois de la table ce soir. Raphaël, pour toi, qui est cet homme côté Lillois?
Moi je vais poursuivre sur la série des matchs amicaux, je vais parler de Adaralsson, l'Islandais. Il n'a pas été forcément le plus visible, mais dès qu'il y a une étincelle dans le jeu offensif lillois, c'était lui. L'action de Cabella, c'est lui. À un moment, il fait une passe très tranchante pour David, c'est encore lui. Donc dès qu'il y a eu un bon coup lillois offensivement, c'était lui qui était là. Donc je pense que ça peut être un facteur X encore plus déterminant dans les semaines à venir.
Maxime,
Moi, je vais choisir Thiago Santos sur le côté droit. J'ai trouvé très performant.
Deux recrues.
Ouais, deux recrues, c'est vrai. Et jeune, surtout. J'ai trouvé très performant sur son côté droit, que ce soit offensivement, défensivement. Il a perdu quelques ballons, mais franchement, vraiment très très bon match de sa part.
Moi je ferais comme Max, je dirais Thiago Santos pour l'apport offensif. Il n'a pas hésité à prendre la responsabilité, il a perdu quelques ballons, mais finalement il n'y a pas eu trop d'offensive niçoise de son côté, donc je pense qu'il a fait le boulot, quoi, vraiment.
Et Antoine?
J'étais sur Santos aussi, ouais.
Voilà, donc les deux recrues qui sont pour vous, ceux qui ont le plus marqué. On peut par exemple parler aussi de Rémi Cabella. Je pensais que vous alliez m'en parler ce soir.
Je voulais être différent.
Rémi Cabella, donc, on a vu son face-à-face manqué face au gardien niçois. C'est la passe manquée aussi de Cabella qui amène le but niçois. Pas le meilleur match pour le numéro 10 lillois.
Il n'aime pas trop Nice, j'ai l'impression, après l'année dernière. Mais moi, j'ai voulu relever plutôt le positif que le négatif. On est en début de saison, donc c'est compliqué de taper sur un joueur. Vaut mieux qu'il fasse ça maintenant qu'à la 34e journée, lorsqu'il faudra jouer une qualification en Coupe européenne, par exemple, comme l'année dernière. Mais en tout cas, oui, il est déterminant dans le mauvais côté, mais c'est pas le seul, parce que j'ai l'impression que tous les cadres ont un peu failli, entre guillemets, dans cette équipe contre Nice, puisque tous les quatre, on cite des recrues, ça veut dire que ceux qui sont là depuis longtemps n'ont pas été forcément au niveau.
On peut justement parler de ces deux recrues, leur match. On a donc souligné celui de Thiago Santos, on a souligné celui d'Aralsson. Aralsson, c'est pas forcément son meilleur poste à gauche, on le sent beaucoup plus à l'aise dans l'axe.
En fait, c'est un peu comme l'était Bamba. Bamba, normalement, c'est un ailier classique, mais avec Fonseca, c'était un joueur qui se retrouvait énormément dans l'axe. Donc, avec cet Islandais, il a cherché un joueur qui était capable de repiquer énormément et de combiner avec Cabella et finalement avec son homologue à droite, qui était censé être Ounas ou Zegrova, qui eux aussi rentrent beaucoup à l'intérieur. Donc là, ça a un peu été le côté négatif contre Nice, on les a vus un peu se marcher dessus. Mais c'est le profil souhaité par Fonseca pour jouer à gauche.
Paulo Fonseca, d'ailleurs, on peut l'écouter après cette rencontre. Pas forcément content du résultat, évidemment, mais ce qu'il a apprécié, c'est la réaction de ses hommes en fin de rencontre.
Je ne suis pas totalement satisfait avec le résultat, mais je suis heureux de caractère de l'équipe, le courage. Nous avons plus le ballon, nous avons plus de récupération, nous avons plus de expected goals. Mais je pense que nous pouvons faire meilleur parce que les opportunités de Nice sont notre erreur.
Si on revient un peu sur ce que dit Paulo Fonseca, pour lui, c'est les Lillois qui ont dominé ce match. Vous partagez ce qu'est dit l'entraîneur lillois ou c'est un peu plus mitigé?
Bon, c'est mitigé. C'est-à-dire que Lille arrive à reprendre le dessus parce que en fin de match, les Niçois sont fatigués, on les voit moins impactants qu'en première mi-temps quand même.
Ouais, mais bizarrement, quand les Lillois ont été les plus dangereux, c'est quand Nice avait plus le ballon. C'est en première période, c'est là où les Lillois ont été beaucoup plus dangereux. Les occasions franches, elles viennent de là. Mais en deuxième période, ils ont quand même repris la possession, plus.
Nice qui était plus fatigué, c'est ça, en deuxième période, ouais. Pour toi c'est ce
Il a fait des changements, si Fatou.
Bah, oui,
il est passé
très tôt.
Très tôt, à la
52e,
dans la gestion.
Dans la gestion, à 40 minutes, surtout maintenant, avec le temps additionnel en plus. C'est vrai que c'est un peu surprenant qu'il ait commencé à canasser aussi vite, c'est qu'il n'était peut-être pas très sûr de ses joueurs physiquement non plus.
Bah, gestion physique, mais dans le vestiaire, c'est pas forcément. Tu sors quand même deux cadres comme ça au bout d'une heure. Je sais pas, on verra.
Il faudra poser la question à l'entraîneur niçois. En tout cas, effectivement, pour rappel, donc un premier changement à la mi-temps de Attal qui avait eu un carton jaune. Ensuite, il fait trois changements à l'heure de jeu. Effectivement, la fin de match, la gestion humaine, en tout cas, est très compliquée. Je pense par exemple à Morgan Sanson qui a très peu couru. Revenons-en au côté lillois. Si on regarde un peu le 11 de départ, par exemple, il y a seulement deux nouvelles recrues. Hein, on voit Santos à droite. On voit quand même quelques changements puisque Diakité, donc coulisse. Et passe défenseur central, il était aux côtés d'Alexandro. On voit Haraldsson qui passe milieu gauche, sinon ça reste sensiblement les mêmes choses que l'année dernière. Quand on voit les difficultés qu'a eu Lille avec Nice qui a joué souvent en bloc bas, est-ce qu'on se dit qu'on est reparti pour la même année du côté du domaine de Luchin?
Non, pas forcément, il y a quand même beaucoup de changements dans cette équipe. Il y a Virginius qui est aligné à droite, qui d'habitude joue à gauche, et là on n'avait pas quelqu'un de vraiment impactant. Il n'a pas fait un bon match, pour le coup il avait l'occasion d'être en lumière et il l'a été de la mauvaise façon. Dans l'axe, on a quand même deux joueurs très jeunes ou très inexpérimentés. On avait quand même un Fonte avant qui, même s'il n'était plus au sommet, il avait une expérience qui permettait de calmer un groupe, d'avoir de la communication en défense. Là, pour le coup, on l'a tous senti. La communication, c'était très délicat sur toutes les passes d'Alexandro, les relances. À chaque fois, on était en danger. C'est pas foncièrement de sa faute. À mon avis, c'est la faute de la ligne de 4 qui ne se parlait pas. Parce qu'il y avait Ismaili qui était expérimenté, qui était tout à gauche.
Et puis. Et souvent très haut aussi.
Souvent très haut. Et puis, même au milieu de terrain, Baléba, André, c'est un milieu de terrain très inexpérimenté. Puisqu'ils ont presque jamais joué ensemble. Baléba, il a eu 8 titularisations, je crois. Donc, c'est très peu pour un joueur de 19 ans. Donc,
Puisque tu parles de Carlos Baléba, est-ce que le petit Lillois sait où sera Carlos Baléba dans les prochaines semaines, dans les prochains mois ?
Être certain, c'est impossible, mais à l'heure où on parle, il y a des importantes négociations. Brighton a perdu Moses Caicedo et il cherche à le remplacer. Et Baléba est un joueur qui a été coché par la cellule des Seagulls depuis plusieurs semaines maintenant.
Il pourrait partir donc pour combien ? Maintenant, c'est ça la question.
Alors. Ça, c'est pas moi, c'est RMC Sport qui a sorti le montant de 30 millions d'euros minimum. Ça me semble plus ou moins logique, autour de 35 millions bonus compris, un truc comme ça, je pense que ça devrait plus ou moins le faire, mais il faut encore que Brighton ait envie et que nous, on arrive à jouer des coudes, à voir comment les jours qui viennent vont avancer. Mais en tout cas, c'est possible que ça arrive jusqu'à un montant comme ça, et s'il n'y a pas de vente, possible que ce soit ce levier qui saute.
Et puis juste une dernière question, on a parlé des passes un peu approximatives d'Alexandro, et une action évidemment qui nous revient peut-être tous en tête, cette passe en retrait vers Lucas Chevalier, et puis un duel qui semble être à l'épaule. Il y a débat sur pénalty ou pas entre Chevalier et Sanson. Est-ce que pour vous, la faute, le pénalty aurait dû être sifflé pour Nice ?
Pour moi, il n'y a pas trop débat.
Il y a faute ou il n'y a pas débat ?
Il n'y a pas faute. C'est-à-dire que le ballon est pour moi en possession de Chevalier. Il joue à l'épaule. Le bras, il le passe après, mais il le passe, il n'écarte pas avec. Et c'est lui qui touche le ballon du pied. pour moi, c'est propre. Hein.
Donc pour toi, il n'y a pas faute. Tony ? Non.
Pareil, je me range à l'avis de l'arbitre.
C'est facile, ouais. Ça, du coup, merci.
Bah, même chose, j'avais un peu peur au début, c'était au niveau des jambes, parce que sur le direct, c'était quand même litigieux. Après, avec le ralenti, c'est plus l'épaule que les jambes, donc non, il n'y aura pas de pénalité.
En fait,
je suis assez d'accord. Il y a juste le petit geste du bras à la fin où tu peux avoir un petit doute, mais c'est tellement tard dans l'action que je pense qu'il n'y a aucune incidence sur le fait que Sanson tombe et que Chevalier ait le ballon. Donc,
on partage unanimement l'avis de Benoît Bastien qui était l'arbitre vendredi soir. Juste avant de se quitter, une annonce, une super annonce, cette bonne nouvelle. Rendez-vous jeudi 24 août, soirée spéciale sur BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral avec la diffusion du match de barrage du LOSC en Ligue Europa Conférence. Ce sera contre un adversaire qu'on connaîtra seulement jeudi, mais rendez-vous donc en direct sur notre antenne une demi-heure avant le coup d'envoi. Il y aura la rencontre diffusée en direct gratuitement et puis on se retrouvera au coup de sifflet final pour débriefer d'abord ce match aller. On se quitte quelques instants et on parle du Racing Club de Lens dans moins d'une minute. À tout de suite. On est de retour en direct sur Cop Nord, sur BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral. On parle maintenant de la défaite du Racing Club de Lens à Brest. Résumé de la rencontre avec Lucas Labarre.
Il aura fallu attendre à peine 10 minutes pour que les supporters lensois exultent pour la première fois de la saison. À la réception d'un corner, Florian Sotoca inscrit le premier but des 100 et or. À quelques minutes plus tard, parfaitement lancé en profondeur, Dever Machado se charge de faire le break d'une grosse frappe au premier poteau. Mais un pénalty généreux avant la pause va permettre aux Bretons d'y croire à nouveau. Au retour des vestiaires, les Artésiens n'y sont plus et se font logiquement rejoindre au score. Un nouveau pénalty à 5 minutes du terme va permettre à Brest de l'emporter face au Racing, qui a terminé à 10 après l'exclusion d'Adrien Thomasson.
Mais il doit comme la
beaucoup, beaucoup de débats hein, dans Cop Nord, surtout quand on diffuse les images. C'est ça le principe de l'émission, finalement. Et on va en parler dans quelques instants. D'abord, on jette un coup d'œil aux statistiques de cette rencontre. Un match plutôt équilibré. Hein. Si on regarde la feuille de stade, presque 52% de possession pour les Lensois. Seulement une quarantaine de passes d'écart entre les deux équipes. Mais Brest a beaucoup plus tiré que les 100 et or, qui n'ont finalement cadré que deux frappes ce dimanche en Bretagne. Messieurs, pour vous, qui a été l'homme qui symbolise un peu cette défaite de Lens à Brest?
Frankowski.
Ouais. Je dirais Frankowski également.
Frankowski aussi.
Maxime. Bah, même chose, parce que c'était le moment sur le terrain, c'est vrai, mais Frankowski. On c'était d'autres joueurs.
Moi, j'aurais dit Gradit.
Ouais, et voilà. Gradit pour sa blessure à
pour
la mi-temps.
Pour la blessure et le pénalty concédé.
Et le pénalty qui concède donc dans le temps additionnel. Ouais. Frankowski, pour vous, il n'est pas au niveau de ce qu'on vous attendiez de lui, ce qu'il avait montré finalement la saison dernière?
C'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est un cadre. C'est pas un joueur qui découvre la Ligue 1, qui découvre l'équipe. Il est déjà installé. Donc normalement, et j'ai revu le Frankowski qui était en difficulté en janvier-février l'année dernière. C'est-à-dire les centres qui n'arrivent pas, les passes où c'est compliqué, manque d'agressivité sur le but, le deuxième but.
Le but de Lala.
De Lala. Il part en retard et puis il le laisse tirer. Franchement, moi j'ai vu que lui. En dessous, j'ai vu que lui. Franchement, c'était incroyable.
Mais est-ce qu'il y avait un joueur lensois qui était peut-être au-dessus des autres? Est-ce que vous aviez peut-être tenu
Machado, moi.
Machado, ouais, pour son deuxième but?
Pas que, parce que au-delà de ce qu'il apporte offensivement, tu sens que c'est quand même très difficile de passer de son côté. Il y a eu très peu d'occasions de son côté. Il y a quand même, on sent que c'est très complémentaire avec Medina. Enfin, je trouve que ça coulisse bien. Donc lui, pour moi, c'était vraiment le vrai top de l'équipe Lens.
Mais il y a cette vraie question, pourquoi Lens, qui mène 2-0 assez facilement, hein, au bout d'une vingtaine de minutes de jeu, concède finalement 3 buts? Est-ce qu'il y a... C'était trop facile, trop vite?
Déjà, il n'y avait qu'une équipe en première mi-temps, déjà. Oui. Et après, c'est l'effet de match, l'effet de jeu. Le premier penalty, juste avant la mi-temps, ça peut tout changer. Et ça a tout changé. Oui. Les effets de jeu, les cartons rouges, après...
Alors, on va évacuer d'ailleurs tout de suite la question. Est-ce que pour vous, il y avait penalty pour ce contact de Gradit sur l'attaquant brestois? Antoine,
c'est pas franchement ce qu'on attend, mais il y a contact dans la surface, il y a pénalty. C'est pas beau.
Parce que c'est très léger, l'attaquant tombe beaucoup plus tard.
Mais il y a contact. Et soit l'arbitre part sur le fait, il estime que l'attaquant simule et il siffle pas, mais pour simuler, il faut qu'il n'y ait pas contact.
Moi, ce qui me dérange, c'est que sur le premier pénalty, l'arbitre fait signe au joueur lensois en expliquant que c'est le bras de Gradit qui fait faute en retombant. C'est pas avec la jambe la première, c'est avec le bras qui siffle penalty.
Après,
c'est
si tu veux, il y a double faute. Hein. Il touche avec le pied, avec le
bras. Dans ces cas-là, quand il explique, il le dit, parce que là, lui, il explique avec le bras. Et franchement,
alors,
ça, c'est sévère.
Par exemple, manqué la remobilisation d'un cadre, comme il y avait Seko Fofana l'année dernière, qui était expert en coup de gueule. Là, c'est vrai que l'équipe, elle est peut-être un peu jeune avec les départs.
Bah, Brice Samba, il s'en sait quand même assumer ce rôle. En plus, il l'avait déjà en étant vice-capitaine, en tant pas capitaine. Le problème, c'est que c'est toujours en en revient au débat de prendre comme capitaine un gardien de but et pas un joueur de champ. Mmh. Est-ce que ça changerait pas un peu la donne aussi par rapport, parce que notamment il y a quand même, tu en parlais de ça la seconde période, effectivement nous on est moins bons dans notre jeu, clairement s'il y avait eu un milieu capitaine qui aurait pu remobiliser tout le monde, indépendamment du fait que Brest aussi est rentré avec beaucoup de meilleures intentions, quoi. Ils ont quand même monté carrément au niveau du pressing et tout, donc ça a joué beaucoup. Je pense que c'est un peu les deux, c'est à la fois Brest qui a fait du meilleur travail qu'en première période et puis nous notre activité entre jeux qui s'est quand même délitée au gré du match, quoi.
Et si on regarde donc le 11 de départ choisi par Francaise, on voit que c'est Sotoka qui est aligné un peu en pointe de cette équipe. Est-ce qu'il manque pas forcément un neuf encore dans le mercato lensois? Ça pourrait être un projet en tout cas.
Bah, c'est sûr qu'il nous manque quand même un joueur qui soit capable de jouer non seulement la profondeur comme open dam, et qui soit aussi capable de jouer dos au but et de pouvoir garder le ballon pour faire remonter les autres. Là, ça s'est senti que ce Guy Lavogui, pour l'instant, il est un peu tendre. Enfin, moi, je veux pas non plus tirer de conclusion.
Pour toi, il fait un bon match, un bon premier match sur le maillot lensois?
En fait, on voit ce qu'il peut apporter. Après, il perd beaucoup de ballons. Et il y a deux, trois fois, on sent qu'il n'obtient pas les fautes qu'un joueur d'expérience obtiendrait.
Et
un tac de Chardonnay, par exemple, à 25 mètres du but, qui aurait pu donner un coup franc. Enfin, c'est un détail, mais l'air de rien, c'est aussi là-dessus qu'on voit, je trouve, l'expérience d'un attaquant de pointe.
Et si on regarde l'autre recrue, Diouf, Antoine, t'as pensé quoi de son match?
Très correct,
au
franchement.
Milieu de terrain où il remplace Fofana.
On sent qu'il a de la technique, il oriente le jeu, mais effectivement, il a 20 ans. Il est jeune et je pense qu'effectivement, ce qui manque au milieu, c'est un gueulard qui commence à dire à tout le monde bah maintenant, on arrête de déconner, on sert le jeu. Et je pense que c'était à 20 ans, c'est peut-être difficile à faire.
Le problème, c'est que tu sens la différence en fait entre la recrue et Fofana, ce qui est logique. Et ce qui est dur, c'est qu'il va être comparé tout le temps, puisqu'il est arrivé là pour le remplacer.
Okay. C'est plus à Abdoul Samed de prendre ce rôle,
c'est
lui, ça, il a déjà un an.
C'est ça.
Donc, ouais, plus dans cet effectif.
Je pense que c'est ça aussi, la complémentarité qu'il y a entre Fofana et Abdoul Samed, là, forcément, ça va être quelque chose qu'il va falloir instaurer. Diouf, tu sens qu'il peut apporter parce qu'il a un super pied gauche, il aura une belle patte. Tu penses qu'il va pouvoir créer des décalages un peu dans cet esprit un peu box-to-box qu'avait Fofana? Il dégage pas la même puissance et puis surtout c'est des automatismes qu'il va falloir bosser avec Abdoul Samed qui est copé quand même pas mal derrière Fofana, parce qu'on a Fofana, on l'adorait, mais il prenait aussi des risques des fois, quoi. Donc, il y avait au moins cet impact, quoi.
Je vous propose un petit jeu, on va pas jouer au ni oui ni non, on va jouer au oui ou non. Est-ce qu'on va finir de parler de l'arbitrage avant de débattre plus largement sur les nouveautés cette année? Est-ce que pour vous le deuxième penalty sifflé par Jérôme Brizard, il me semble, est légitime? Est-ce qu'il y avait faute? Est-ce qu'il y avait penalty? Antoine, oui.
Moi je dirais non.
Non. Maxime?
Oui.
Oui.
Moi je dirais non, j'ai toujours pas vu.
Donc personne n'est vraiment convaincu. Ce qui pose problème, c'est le fait, encore une fois, que le joueur tombe bien après. C'est pour ça que pour vous, ça pose problème.
C'est les jambes le problème.
Ça touche au pied. Bon, il siffle pas la faute de main. Elle est très légère. Ça touche au pied. Il lui marche sur le talon.
Mais après,
il y a pénalty.
Le problème, c'est que si tu cours derrière quelqu'un, à un moment donné, tu peux le toucher sans forcément dans l'intention de le déséquilibrer.
Oui, mais il y a contact.
Là, tu sens que là, quand il y va, Camara, clairement, il y va pour obtenir le péno.
Mais voilà. Il y a contact.
Il tombe à partir du moment où on le touche dans la surface.
Après, moi, c'est pas la décision qui me choque le plus. Moi, c'est le carton rouge.
Bah justement, voilà. Est-ce que pour vous, il y avait rouge sur cette semaine de Thomas?
C'est très, très dur parce que.
Oui, non.
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 Pour moi, il n'y a pas rouge.
Absolument pas rouge.
Non plus. Non. Donc là, il y a l'unanimité, en tout cas. Pour vous, c'est quoi? Un jaune, il y avait une semelle, mais ça n'était pas plus.
C'est ça.
C'est jaune. Semelle, c'est une faute vraiment très, très définie. Une semelle, c'est lieu d'impact, intensité. Lieu d'impact sur le pied, ça vaut pas rouge. Si c'est une grosse intensité, on peut venir sur un rouge. J'y serais pas allé.
Mais là, pour le coup, il n'y a pas d'interprétation pour celle-là.
Bah ouais, c'est ça, quoi.
Interprétation sur l'intensité.
Et donc, la VAR.
Pignard de voir.
Et la VAR, elle sert à quelque chose. J'ai même pas l'impression qu'il consulte. Il n'y a pas un moment où il fait une pause.
Ils peuvent revenir pour lui dire le lieu d'impact de la faute, mais à partir du moment où l'arbitre lui dit pour moi, l'intensité, c'est un excès d'engagement, il peut blesser le joueur, la VAR n'a rien à dire.
Bon, alors on clôt ce débat, il n'y aurait pas dû avoir rouge. Maintenant, il faut voir combien Adrien Thomasson va avoir de matchs de suspension. Si on regarde donc les nouveautés de l'arbitrage cette année, il y a des nouvelles consignes qui ont été données par la FFF et Anthony Gauthier, le maire de Bailleul, qui est aussi patron de l'arbitrage français. Il y a donc des consignes pour favoriser le spectacle. Moins de fautes sifflées, des arrêts de jeu plus longs. Il y avait en moyenne 13 minutes d'arrêt de jeu par rencontre. Vous en pensez quoi de ces nouvelles consignes de l'arbitrage? Vous avez vu plus de spectacles ce week-end?
Moi, je trouve que c'est mieux dans l'idée principale d'avoir plus de temps de jeu effectif, puisqu'on a tous ici râlé quand son équipe était menée et que les touches, elles mettaient 10 ans à être tirées, les corners, les 6 mètres, tout. Donc oui, mais la justification est assez moyenne, je trouve, avec l'idée d'avancer les célébrations de but. comme excuse.
Il aurait fallu faire quoi? Est-ce que donc à peu près 10 minutes c'est trop? Il aurait fallu un peu plus calibré, de manière un peu plus stricte, un peu plus
avoir
un peu
une justification plus logique. Moi, on m'aurait dit on fait ça pour éviter les mauvais esprits de jeu. C'était bon dans mon esprit, c'était bon. Mais je trouve que la justification est moyenne. Et après. Il manque peut-être aussi de règles sur le temps décompté finalement, parce que est-ce que c'est
ça va dépendre à chaque fois du temps que vont prendre, du moins du temps effectif que vont prendre les joueurs sur ce truc-là, sera peut-être plus adapté. Là où avant on comptait à peu près 30 secondes, si je dis pas de bêtises, sur
c'est
un
ça,
changement.
À peu près c'était 30 secondes à la louche sur un changement, et sur des pertes de temps comme ça, c'était vraiment approximatif. Là cette année, ils ont vraiment mis les célébrations comme un item de récupération de temps de jeu.
Et est-ce que ça va pas être plus dur à arbitrer, parce qu'on sait forcément le temps additionnel il s'allonge, l'enjeu devient de plus en plus crispant. Est-ce que ça va pas être plus dur, surtout si on laisse déjà jouer les joueurs dans la rencontre? Est-ce qu'il n'y a pas le risque que la tension monte sur le terrain, que ce soit plus difficile pour les arbitres?
Si, forcément, mais je crois qu'on oublie un point essentiel, c'est aussi sur les répercussions physiques des joueurs. Parce que déjà, dans le football 2023, depuis quelques années, où on joue beaucoup de matchs dans une saison, avec les très matins, ça rend encore plus de matchs encore pour les joueurs. Et rajouter 10 minutes, 20 minutes par match à chaque fois, le nombre de blessures va augmenter. C'est déjà le cas dans le début de saison, partout en Europe. Donc je suis pas convaincu par le temps additionnel.
C'est Raphaël Varane hein, qui avait notamment dit, c'est ce que tu allais me dire, je suppose que
forcément. Il revient sur le fait que ça faisait déjà trop de matchs et que trop de temps de jeu. Par contre, moi, je rapprochais ça du fait quand même que depuis la crise du Covid, il y a quand même plus de remplacements. Et il y a quand même aussi plus de remplaçants décisifs. Donc c'est aussi quelque part peut-être la possibilité de donner 10 minutes de plus à des gens qui rentrent en fin de match pour apporter quelque chose. Alors on le voit avec. C'est où il y a un mec qui est rentré claque un doublé sur les arrêts de jeu, ce qui serait pas possible. Et qui, bon, ça change pas le résultat parce qu'ils avaient déjà un résultat pour eux. Mais bon, je pense que ça donnera aussi peut-être plus l'occasion en remplaçant d'être décisif et peut-être aussi de pouvoir de gérer un vestiaire de manière plus harmonieuse, quoi.
Plus facile, du moins pour les équipes qui ont les moyens d'avoir un banc conséquent.
C'est
des équipes où le banc, malheureusement,
c'est
un peu plus faible.
Pour les jeunes, il y a des jeunes qui pourront peut-être se montrer plus facilement grâce à ça.
En tout cas, donc, on assiste peut-être à un nouveau football qui continue d'évoluer chaque année. Mais quand on voit effectivement 13 minutes en plus, il y avait donc cette question qui arrivait. Il faut s'interroger aussi sur la santé physique des joueurs, des blessures qui sont en augmentation. Et je repose donc ma question quand même sur l'arbitrage. Est-ce que c'est pas plus difficile aussi pour les arbitres là sur cette saison, sur la gestion humaine du stress?
Et c'est aussi, on peut arriver sur des moments où les joueurs vont faire plus de fautes par inadvertance, par fatigue, et du coup des fautes qui vont devenir plus grossières sur les lieux d'impact qui vont être un peu plus haut sur c'est autre chose.
Ça ne convainc pas en fait.
Pas vraiment. Et puis après il y a aussi d'autres choses à gérer. Cette année on a demandé aussi aux arbitres d'arbitrer différemment, de laisser un peu plus jouer, donc ça fait beaucoup de changements sur les comportements, sur les. Pour s'adapter, il va falloir un petit temps, je pense.
Eh ben, on a toute la saison pour ça. Merci, messieurs. On jette d'abord un coup d'œil au classement. Un classement qui, évidemment, ne veut pas dire grand-chose à la première journée, hein, puisque Lille est 9e avec 1 point. Lens est 13e avec 0 point. Programme la semaine prochaine. Retour de la Ligue 1 dans la région. Rendez-vous dimanche avec Lille-Nantes à 13h à la Décathlon Arena. Lens accueillera le leader Rennes à 20h45. L'actualité sportive dans la région vous est résumée ce soir par Théo Dorangeon.
Le premier succès de Dunkerque depuis son retour en Ligue 2. Les Maritimes sont venus à bout de Guingamp samedi, 1-0. Le match s'est joué sur un duel de pénalty. À Guingamp, le premier, la frappe du Breton est stoppée par Balijon, le gardien de l'USLD. En fin de match, c'est au tour de Dunkerque de se procurer un pénalty converti par Aurélien d'un contre-pied maîtrisé. Après deux journées, l'USLD compte 4 points. Bilan comptable toujours à 0 en revanche pour Valenciennes. Battu sèchement d'entrée, les nordistes ont de nouveau perdu sur un score large, 3-0 à Bastia. Inoffensif, le VAFC a subi et craqué par 3 fois. Liénard, Santelli et Vincent sont les buteurs corses. Valenciennes est pour le moment avant-dernier après 2 rencontres. Une deuxième sélection pour le nordiste, Florian Vérag avec le 15 de France. Samedi, face à l'Écosse, le joueur originaire du Dunkerquois est rentré en jeu. Le deuxième ligne a aidé les Bleus à remporter le deuxième match de la préparation à la Coupe du Monde qui débutera le 8 septembre. Un nordiste champion du monde de BMX, Romain Mailleux a décroché l'or hier à Glasgow, un premier sacre mondial pour ce Lillois de naissance. Il devance 2 autres Français en finale, de bon augure à moins d'un an des Jeux Olympiques de Paris. Déception en revanche sur la course en ligne pour Victoire Berthaud. Prise dans une chute, la nordiste a dû abandonner touchée au genou. Elle repart tout de même de ses mondiaux avec 2 médailles de bronze en cyclisme sur piste.
Picarde.
Merci messieurs, merci Maxime, Raphaël, Denis et Antoine d'avoir été sur ce plateau. On vous rappelle que cette émission elle est à retrouver sur nos réseaux sociaux, site internet BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral. Merci à Théodore Anjon à la réalisation, merci à la rédaction de RMC Sport qui nous aide chaque semaine à construire cette émission. Et puis juste avant de se quitter, je vous rappelle cette excellente nouvelle. On vous donne rendez-vous jeudi 24 août, soirée émission spéciale sur BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral, diffusion du match de barrage du LOSC en Ligue Europa Conférence en direct contre un adversaire qu'on connaîtra jeudi. Rendez-vous donc sur notre antenne une demi-heure avant le coup d'envoi, puis la rencontre en direct gratuitement, et on se retrouve au coup de sifflet final pour débriefer ce match aller. Avant cela, Cop Nord, ce sera de retour lundi prochain. Très bonne semaine à tous, salut.